Bien, bonjour à tous et à toutes ce matin. C'est un plaisir de nous retrouver ici pour un moment partagé, un moment ensemble dans la parole de Dieu. Peut-être avant de commencer, j'aimerais encore prier et remettre ce temps pour qu'il soit un temps favorable pour le Seigneur. Donc inclinons-nous et prions ensemble. Seigneur, juste avant ta crucifixion, tu étais dans le jardin de Gethsémané et tu priais ton Père. Et tu as dit... En priant pour nous, tu as dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et ensuite tu as prié ceci, Jésus, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Ô Seigneur, lorsque nous nous réunissons pour examiner ta parole, Seigneur, nous savons que c'est l'outil par excellence que toi tu as choisi pour notre sanctification. Seigneur, pour nous purifier de plus en plus, afin que nous ressemblions de plus en plus à notre Sauveur Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons ce matin venir à toi humblement, en te remettant nos vies, Seigneur. Tu nous connais chacun et chacune parfaitement. Tu connais ceux d'entre nous qui connaissons Jésus-Christ personnellement. Peut-être d'autres qui ne connaissent pas Christ personnellement. Mais Seigneur, ta parole est une épée à double tranchant. Et Seigneur, elle sait comment ouvrir un cœur pour qu'il croie et tailler une vie pour qu'elle ressemble de plus en plus à Christ. Ô Seigneur, merci. Utilise cette épée ce matin dans chacune de nos vies, afin que nous puissions croître et grandir. Seigneur, tu connais chacun nos problèmes, nos soucis, nos joies, nos peines. Fais ton œuvre. Accomplis ta volonté. Et nous t'en remercions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et amen. Voilà, mais écoutez, si vous avez vos Bibles ce matin, je vous invite à les prendre et à les ouvrir à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Alors, il y a environ 3 ans de cela, mon épouse et moi, nous avons été invités sur un voyage extraordinaire. C'était un voyage au travers de l'Allemagne, Zurich et jusqu'à Genève. C'était un voyage pour examiner les vies des réformateurs, enfin les grands réformateurs d'autrefois, Martin Luther, ensuite Zwingli à Zurich et bien sûr Calvin à Genève. Et un des lieux en Allemagne qui m'a frappé, c'était le château de, bon mon allemand n'est pas très bon, Wartburg en anglais. Wartburg en français, je ne sais pas. Mais il y a un château, c'est ce château de Wartburg. Et en 1521, Martin Luther, qui refusait de retirer ses 95 thèses, qui, là où il a condamné l'Église catholique pour sa pratique de vendre des indulgences, eh bien il a refusé de retirer ses thèses, et lorsqu'il a refusé de faire cela, sa vie était une vie qui était maintenant en danger. Et alors certains de ses amis... pour éviter qu'il lui fasse du mal, en fait, l'ont kidnappé. Luther a été kidnappé, il était enlevé, et on l'a caché justement dans ce château, qu'on peut aller visiter aujourd'hui. Vraiment un château sur le haut d'une montagne, une imposante forteresse. Et là, il y est resté pendant environ 2 ans, et c'est pendant ce temps de ce château qu'il a décidé de traduire la Bible en allemand, car il voulait que la Bible soit dans la langue commune du peuple. En fait, il se déguisait, j'ai lu cette semaine, régulièrement, il allait dans les marchés des villages dans les alentours pour écouter les gens parler, pour qu'ils puissent écrire une traduction vraiment dans la langue allemande que pourrait comprendre le peuple allemand. Et bien sûr, cette Bible est devenue quelque chose d'extraordinairement populaire en Allemagne. Et en fait, si vous voulez en voir une, vous pouvez aller au musée de la Réforme à Genève et vous pouvez voir la vitrine numéro 18. Et là, il y a une copie de cette Bible absolument fantastique. Alors un jour, Martin Luther était dans cette forteresse et il a ressenti l'attaque violente de Satan. Et il se sentait tourmenté pendant un long moment. Il avait l'impression qu'il est devenu fou. Et certainement que Satan essayait d'attaquer Martin Luther, car une traduction en allemand de la Bible avait ouvrir la compréhension de la parole de Dieu à tout un peuple, voire à tout un continent, voire à tout un monde. Et dans ce tourment, soudainement, Martin Luther a pris son encrier. Il a pris cet encrier et il l'a lancé contre Satan. Alors bien sûr, nous savons que notre lutte n'est pas contre chair et os, n'est-ce pas? On le verra dans quelques minutes. Mais dans sa frustration, il a lancé son encrier qui s'est écrasé contre le mur. Et il s'est brisé contre ce mur et causant une grosse tache noire sur ce mur. Alors bien sûr, des touristes qui vont, comme moi d'ailleurs, on regarde à fond ce mur et on se dit, on doit voir cette tache encore quelque part. Alors on vous nous dit qu'il y a une semblance de tache, je ne suis pas sûr que la tache y est encore. Mais ce qui est intéressant, qu'après ce moment, de là, l'inspiration pour le travail de la traduction de la Bible fut telle que le projet fut accompli en quelques mois. Et nous pouvons remercier cet homme pour ce qu'il a fait. Alors, aujourd'hui, nous voulons examiner notre victoire contre Satan. Alors, question, est-ce que le coup de l'encrier, c'est la meilleure manière de se battre contre Satan? Alors, probablement pas, d'accord? Mais je trouve intéressant que Luther, excusez, on a quelques petits soucis de son, comme vous pouvez l'entendre, alors essayons et prions que ça ne vous distrait pas. C'est probablement pas la meilleure méthode de combattre Satan, et je pense que Luther serait le premier à vous le dire, mais nous allons voir ce que Dieu prescrit comme notre lutte pour être victorieux contre Satan. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train de terminer aujourd'hui une série de 4 semaines sur Satan. Nous avons vu la première fois l'existence de Satan. Deuxièmement, nous avons vu la nature de Satan. Ensuite, nous avons vu les ruses de Satan. Et aujourd'hui, la victoire contre Satan. Et si vous voulez entendre ces messages, vous pouvez aller sur notre site et les télécharger et les entendre. Alors, j'aimerais quand même lire le texte, parce que je crois que c'est important que nous l'ayons vraiment entre les mains, Éphésiens 6, 11 à 17. Et bien sûr, toute cette série est dans une série dans Éphésiens, et on est en train de gentiment arriver à la fin de ce livre. Mais écoutez, Éphésiens 6, 11. Paul écrit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors écoutez, vraiment, on va morceler notre passage, très simplement, 2 points. Imaginez que 2 points ce matin, d'accord? Premièrement, nous allons voir la nature du combat, et deuxièmement, l'armure pour le combat. Alors, voyons en premier la nature du combat. Nous sommes, mes amis, dans un combat. Ça, c'est sûr. Car le verset 11 nous dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Alors cette nature, elle est décrite en premier dans le verset 11. Il dit « Revêtez-vous », littéralement « habillez-vous » de quoi ? De toutes les armes de Dieu. Littéralement l'armure complète. Une armure complète. Et ça on le sait parce que il va la décrire quelques versets plus loin. C'est une référence en fait à l'armure que portait un soldat ordinaire dans l'armée romaine. Et alors, les chrétiens avec cette image très belle sont appelés à eux porter cette armure complète. Attention, pas partielle. Toutes les armes de Dieu. Ce serait une folie d'aller en guerre avec une armure partielle. Il ne faut que rien ne manque. Mais pourquoi? Pourquoi faut-il porter l'armure de Dieu? Eh bien écoutez, là on est vraiment servi parce qu'il nous le dit. Il nous dit en premier afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et ensuite il continue, car nous n'avons pas à lutter contre chair et sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors là, il décrit vraiment cette lutte et notre ennemi. Premièrement, nous devons porter cette armure pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est intéressant ici que l'armure de Dieu nous permettra de tenir bon contre les ruses du diable qui nous attaquent. Écoutez très bien ce que je vais dire. C'est une position défensive. Défensive, non offensive. On n'est pas appelé à aller nous battre contre Satan. On est appelé à tenir ferme. On garde notre terrain. On n'avance pas et on ne recule pas. On tient ferme. Alors, qui est l'ennemi? Regardez ce qu'il dit. Les ruses de qui? Du diable. Satan lui-même. Waouh! Satan lui-même, et bien sûr ses démons, on va le voir dans quelques secondes, mais notre ennemi est Satan lui-même. C'est un face-à-face avec le diable qui, lui, nous attaque par des ruses. Et c'est pour nous protéger de ces ruses que nous devons mettre notre armure. Et regardez, personne ne peut le faire pour vous. Chrétien, tu dois porter ton armure. Je dois porter la mienne. Chacun pour soi, vis-à-vis de l'armure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu deux ou trois personnes essayer de filer une armure. Très difficile. Une par personne. Pourquoi? À cause des ruses. C'est intéressant, on va dans le détail là. Les ruses, alors ça c'est un mot génial en grec, c'est le mot que vous connaissez. Méthodos. Les méthodes. Les méthodes au pluriel. Et oui, c'est ça qui est inquiétant, c'est que Satan a plusieurs méthodes d'attaque. Il est malin, malin, réfléchi, calculateur, et ses méthodes sont efficaces et ciblées et prescrites pour chacun. Il utilisera certaines méthodes pour toi, il utilisera d'autres méthodes pour toi, et il utilisera encore d'autres méthodes pour moi. Il sait ce qu'il fait, il sait comment attaquer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche des failles dans nos vies pour nous attaquer vis-à-vis de ces failles. Voilà sa méthode ou ses méthodes. Et bien sûr, en tant que diable, diabolos, accusateur, calomniateur, il est menteur, nous dit Jean 8, 44. Nous savons très bien que ces techniques, souvent, sont celles qui sont basées sur des mensonges. Il cherche à piéger les croyants en leur faisant croire des mensonges sur telle ou telle chose et d'habitude leur faire douter la parole de Dieu. Qui est clair. Et ça, c'est la ruse qu'il a utilisée contre Adam et Ève. Leur faire douter ce que Dieu avait dit. Genèse 3. Donc, nous sommes appelés à tenir ferme contre les ruses, les méthodos du diabolos, de l'accusateur. Et je trouve intéressant qu'il décrit au verset 12 la nature vraiment du combat. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est intéressant. Le mot lutte, c'est le mot lutte. C'est bagarre. Conflit. Et ce conflit qui est tout à fait réel n'est pas physique. N'est pas physique. N'est pas contre la chair et le sang. C'est une bataille spirituelle. C'est une raison que le coup de l'encrier, ça marche pas. D'accord ? Pour vraiment faire du mal à Satan. Non. Alors maintenant, il y a quatre catégories d'êtres spirituels contre qui nous devons nous protéger. Donc il y a Satan, puis ensuite il y a ses émissaires. D'accord? Parce que Satan n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout en même temps. Il est limité, alors il va très très vite, hein, je pense. Mais il a des démons, des milliards de démons. Qui eux font des dégâts. Il y a plus d'anges que de démons, mais il y a quand même pas mal de démons. Un tiers des anges sont les démons aujourd'hui, d'accord? Donc il a beaucoup d'émissaires qui font du mal. Et ici, ils sont décrits. Premièrement, il nous parle des dominations. Le mot arché, littéralement la première personne dans une série. Ça décrit quelqu'un qui est dans la première place, une principauté, celui qui règne. Et ceci implique que dans le monde démoniaque, spirituel, il y a des rangs, il y a une hiérarchie de démons. En fait, ce que nous apprenons dans les Écritures, c'est que même les anges avaient déjà été classés, ils ont toujours été classés. Et que lorsqu'un tiers de ces anges, Apocalypse 12, se sont dégagés pour se rebeller contre Dieu, eh bien eux ont gardé leur rang. Qu'ils soient des anges ou des démons, ils ont des rangs. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont les principaux dominations. Ensuite, il y a les autorités, exousia, littéralement ce qui est permis, liberté de choix, liberté d'agir. On a l'impression que ce mot veut parler d'une autorité. Ce sont les démons qui sont sous l'autorité d'un autre. Donc, il y a ceux qui sont en premier et ensuite ceux en dessous de leur autorité ou l'autorité carrément de Dieu. Ce sont des démons qui ont été confiés une mission spécifique et donc ils obéissent à leur mission. Trois, les princes de ce monde de ténèbres. Cosmocrator, le monde est tenir dans la main, littéralement. Tenir le monde dans la main. De posséder. Il ajoute de ténèbres. Ce sont ceux qui possèdent le royaume du péché ou le mal. Tout ce qui caractérise le mal. Et ça, j'y réfléchis cette semaine. C'est incroyable de penser que ce conflit céleste est un conflit littéralement entre le bien et le mal. Dieu et ses anges, Dieu est trois fois saint, nous dit Ésaïe 6, et ici nous avons les princes de ce monde de ténèbres. Les ténèbres, méchants, le mal. Et c'est au pluriel en plus. Ils sont nombreux. Et le verset nous montre, 11, que le diable, Satan, est le chef. Et ensuite, en dessous, il y a ces démons. Et regardez la quatrième catégorie, les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors encore ça, j'y réfléchis cette semaine. Des esprits méchants, des démons méchants, où sont-ils ? Dans les lieux célestes. Alors, ça c'est intéressant. Qui est dans les lieux célestes ? Premièrement, Éphésiens 1:20 nous dit ceci. Il l'a déployé en Christ et le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Qui est dans les lieux célestes ? Dieu le Père, et qui est assis à côté de lui ? Christ, Jésus-Christ. Donc Dieu le Père et Jésus-Christ sont dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6 nous dit ceci. Et il nous a, donc parlons de chrétiens, ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Alors, où sommes-nous déjà assis spirituellement ? Dans les lieux célestes. Vous dites, John, je ne comprends pas. Moi non plus, d'accord ? Je ne comprends pas très bien, mais je sais que je suis déjà assis, c'est la promesse qui m'était faite, spirituellement, je suis déjà assis sur, en Christ, dans les lieux célestes. Éphésiens 3:10, continue. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes, écoutez, connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Là, il parle d'anges, de bons anges. Donc, nous savons que dans les lieux célestes, il y a Dieu, Christ, nous, les anges, et ici, nous apprenons qui encore y est ? Les démons. Et Job 1 nous montre que Satan a même accès à Dieu dans le ciel. Alors, vous dites, mais John, j'ai un petit peu de la peine à comprendre. Moi, je vous réponds, moi aussi. D'accord ? Mais je comprendrai parfaitement le jour où je meurs et je verrai ça de mes propres yeux, et vous aussi si vous connaissez Christ. Mais ce qui est certain, c'est ceci. Où est notre conflit ? Alors c'est une question intéressante. Parce que d'un côté, il n'est pas physique, mais spirituel. Et donc, il donne ici l'impression d'être purement céleste. Mais, nous vivons sur terre. Et il suit maintenant le texte en nous disant que nous devons porter l'armure de Dieu. Alors, il y a un mystère que je ne comprends pas. Cette bataille est d'un côté totalement céleste, mais de l'autre côté, cette bataille est terrestre. Parce que nous sommes appelés à nous équiper pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Où ? Mais ici sur terre. Ici sur terre. Donc la bataille qui fait rage semble être une bataille qui se joue entre les lieux célestes et la terre. Donc, ça c'est la nature du combat. Passons au deuxième point. Notre armure pour le combat. Ouah, ça c'est une bonne nouvelle. Imaginez que si on n'avait pas d'armure, comment est-ce qu'on s'en sortirait? Alors nous revenons à Éphésiens 6. Notre armure pour le combat. Regardez verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alors de nouveau, il nous répète l'importance de notre armure et de la portée. On vient de voir les puissances diaboliques formidables qui opposent les chrétiens avec des puissances surhumaines. En fait, cette puissance est tellement colossale qu'il nous dit, chrétiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et je répète, ça c'est le verset 11, et s'il se répète, c'est pourquoi verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Et regardez verset 14, tenez donc ferme. Moi je crois qu'il est en train de nous dire quelque chose, je ne sais pas si vous le comprenez aussi comme ça, d'accord? Wow, chrétien, réveille-toi! Mets l'armure de Dieu et tiens ferme, tiens bon. C'est ce qu'il nous dit de faire. Trois fois il nous dit, tiens ferme, tiens bon. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. En fait, c'est très intéressant. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Ça, c'est intéressant. Je crois que la clé pour comprendre se trouve dans Luc 4:13. Vous vous rappelez lorsque Jésus a été tenté par Satan? Et Jésus a résisté à Satan en citant littéralement la parole de Dieu chaque fois. Il a résisté à Satan. Mais ce petit verset donne des frissons. Luc 4, 13. Écoutez ce qu'il dit. Après l'avoir tenté de toutes ses manières. Donc Satan a essayé de tenter et faire pécher Jésus. Il a essayé, ça n'a pas marché. Regardez ce qu'il a dit. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Regardez. Jusqu'à un moment favorable. Waouh. Ça veut dire, et voilà pourquoi nous sommes appelés, répétés, de manière répétée, à tenir ferme. Parce que si tu tiens ferme aujourd'hui et tu es dans une période de victoire, attends, car il va revenir et il attend un moment favorable pour t'attaquer de nouveau. Il l'a fait avec Jésus, et je pense que c'est ce qu'il est en train de dire au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Donc il faut mettre l'armure dans les bons jours pour être prêt pour les mauvais jours. Il faut dormir, se lever, passer la journée au travail, redormir, toujours armé. Et tenir ferme après avoir tout surmonté, est-ce là simplement que notre préparation doit être telle qu'un jour, et probablement lorsque nous sommes glorifiés, nous serons alors dans une situation où nous aurons tout surmonté. Il faut tenir ferme jusqu'à notre gloire. À aucun instant pouvons-nous enlever ni une partie de notre armure. Alors regardez le verset 14, il se répète, il ne nous a pas encore parlé de l'armure, mais il dit « Tenez donc ferme !» Je sais pas, est-ce qu'il y a une répétition là que vous voyez ? Il y a urgence. Alors, regardons les articles de cette armure que nous devons porter. Il y en a 6, d'accord ? 1. Alors, je pense qu'il y a un petit quelque chose qui va vous aider dans la vision de cette armure. Alors, voilà. Alors, mon fils m'a dit, « Papa, peut-être... » Moi, c'était mon idée. « Peut-être que j'aurais dû venir prêcher habillé en armure romaine. » Mais ensuite, je me suis dit, « Bon, là, peut-être que ce serait clair, mais ce serait peut-être une petite distraction. » Donc, j'ai décidé de ne pas le faire. Alors, merci pour PowerPoint. D'accord. Regardez ce qu'il dit au verset 14. « Tenez donc ferme, et ayez à vos reins la vérité pour cuirasse. » Alors, Le premier article, c'est une cuirasse, une ceinture, qui est décrite au verset 14. Alors, premièrement, les reins, la partie du milieu du corps où la ceinture est portée. La partie du milieu du corps. Et cette ceinture romaine est vraisemblablement celle que nous voyons dans cette image, une ceinture de cuir qui était portée autour de la hanche avec des lanières de cuir pour permettre la liberté du mouvement des jambes. Et bien sûr, cette ceinture protégeait les parties du corps entre la taille et le haut des genoux. Et il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et donc, bien sûr, c'est un langage symbolique ici, dit, voilà, notre article, c'est pas vraiment une ceinture romaine, mais c'est la vérité. La vérité. Et ce mot se réfère à ce qui est fiable, en contraste à ce qui est faux. On a quelques exemples dans verset 1, chapitre 1 et le verset 13. En lui, vous aussi avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. On a l'impression que lorsqu'il utilise le mot vérité ici, il parle du corps de la vérité qui représente l'évangile. C'est l'évangile, c'est la vérité qui représente tout l'évangile. Et dans 4:21, nous lisons, si du moins vous avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La vérité qui est en Jésus, c'est toute la vérité qui est en Jésus, qui est décrite par lui, qui est symbolisée ou qui est réellement vécue par lui, comme par exemple dans Jean 14:6, un verset que vous connaissez très bien aussi, où Jésus s'explique sur ce qu'il est et il dit, je suis le chemin, quoi ? La vérité est la vie. Si tu veux trouver la vérité, mon ami, il ne faut pas aller très loin. Il faut chercher dans une personne, Jésus-Christ, car il dit clairement, je suis la vérité et la vie. Ensuite, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et dans ma prière tout à l'heure, j'ai cité Jean 17:17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Le premier article que nous devons porter, et c'est un article de protection, c'est la vérité. C'est la vérité. La vérité objective de Dieu. Toute la vérité objective de Dieu se trouve nulle part ailleurs que dans la parole de vérité. Et cette vérité devient la base de l'armure protectrice du chrétien. Mes amis, il faut, tu es peut-être nouveau chrétien, ou tu es peut-être chrétien de longue date, tous les jours, il faut imbiber de la vérité. Je pense que ceci nous parle de la discipline chrétienne, un engagement total vis-à-vis de la vérité. Deuxième article, la cuirasse de justice. La cuirasse de justice. Revêtez-vous de la cuirasse de justice. Alors, la cuirasse était une plaque métallique qui était portée pour protéger la poitrine. Alors, c'est intéressant, certains commentateurs disent que dans une armure romaine, il n'y avait rien pour protéger le dos. Je n'ai pas pu confirmer. Si c'est vrai, tu ne peux pas faire demi-tour. Parce que si tu fais demi-tour pour courir, tu es fini. D'accord ? Parce qu'il n'y a que l'armure devant. Alors, si c'est vrai, eh bien, je pense que l'image est très frappante. C'est cette plaque qui protège la poitrine, bien sûr, avec but de protéger le cœur, les poumons, les intestins, les autres organes vitaux. Alors, la justice, c'est quoi ? Bien, de nouveau, il y a cette justice qui nous a été imputée par Christ au moment de notre salut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, le verset clé, c'est 2 Corinthiens 5:21. Et là, ça va être clair. Lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, ressuscité, lorsqu'il nous offre le salut et nous croyons par la foi, nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, quelque chose de formidable arrive à cet instant. Il est dit ceci, 2 Corinthiens 5:21, « Celui qui n'a point connu le péché, parlant de Christ, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc notre péché est allé sur lui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Lui, il a dit, « Je prends votre péché. » Et ensuite, il a dit, et je vous donne ma justice, je vous donne la pureté. Et ça, c'est ce qu'on appelle la justice positionnelle du croyant. Il nous déclare juste et innocent au moment de notre salut. Et c'est pour ça que nous avons célébré la Sainte-Cène, Son sang, son corps a été donné pour nous pardonner en un instant de notre péché. Mais, ce verset doit se référer pas à cette sanctification ou cette justice positionnelle. Pourquoi? Parce qu'il nous dit de nous revêtir de la justice et il parle à des chrétiens. Donc nous sommes déjà sauvés. Alors là, il est en train probablement de parler d'une autre justice, c'est ce qu'on appelle la justice pratique. C'est notre vie quotidienne de tous les jours. C'est notre vie de sainteté de tous les jours. Si vous regardez par exemple dans le livre d'Éphésiens, nous avons la justice positionnelle au verset 20, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, etc., verset 22, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc, au moment de notre conversion, on revêt l'homme nouveau. Maintenant, la continuation de cela, c'est une justice pratiquée. Au verset 21, à partir du verset 25, c'est pourquoi, dit-il, renoncez au mensonge. Verset 26, ne mettez-vous pas en colère. Verset 28, ne dérobez plus. Au verset 29, attention à ce que vous dites et vos paroles. Et là, il y a toute une série de ce que j'appelle la justice pratique. Et je pense qu'il est en train de nous dire ici, attention, car il faut veiller, chrétien, que ta justice pratique ne donne pas accès au diable. Vous dites, mais est-ce que ça peut vraiment donner accès au diable? Regardez justement, Éphésiens 4, c'est incroyable. Prenons l'exemple de la colère. Disons que tu as un problème grave, chrétien, avec la colère. C'est pas encore un problème que Dieu a vraiment réglé dans ta vie, d'accord? Et tu t'énerves pour n'importe quoi et pour tout. Ou peut-être, pas si souvent, mais il y a un vrai problème de colère et d'énervement chez toi. Fais très attention parce que regardez ce qu'il dit au verset 26 d'Éphésiens 4. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Regardez, et ne donnez pas accès au diable. Voyez-vous, le diable cherche des failles morales pour s'infiltrer et nous casser. Et donc, cette justice, pas une justice de bonne œuvre pour notre salut, mais cette justice qui découle d'un cœur transformé, devient un article de protection précieux que Dieu nous donne. Et on a regardé la semaine dernière le genre de péché qui peut vraiment donner accès au diable. Donc si tu es conscient de quelque chose dans ta vie qui n'est pas en règle, chrétien, règle cette chose. Et c'est pour ça que la Sainte Cène vous est offerte régulièrement pour vous aider aussi à régler ces problèmes, afin que le diable n'ait pas accès. Troisième article de vérité. Les pieds, regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 5, et le verset 14, le verset 15, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. » Alors, mettez à vos pieds littéralement attachés, parlant de cette sandale romaine que vous voyez. Et qu'est-ce qu'on doit mettre? Le zèle. Littéralement, le mot veut dire avec préparation. C'était l'idée d'être prêt pour la bataille. J'étais prêt. Ces sandales sont mises, elles sont prêtes. Et l'évangile de paix, c'est la bonne nouvelle du salut. C'est intéressant, dans Éphésiens 3, 6, il dit que la bonne nouvelle, c'est aussi l'union spirituelle des juifs et des gentils. C'est-à-dire que quand on se convertit à Jésus-Christ, qu'on soit juif ou gentil ou autre, et notre église est un exemple de ça, quelle que soit notre nationalité, notre arrière-plan social et autre, on est unis en Christ. Et ça, c'est aussi la paix que donne l'évangile. Il nous donne la paix avec Dieu, il n'est plus en colère avec nous, il nous donne sa justice, mais nous sommes en paix les uns avec les autres. Alors, question, est-ce que cela veut dire, comme ça souvent interprété, que nous devons alors aller prêcher l'évangile? Est-ce que ça, c'est l'arme ici? Si nous prêchons l'évangile, si nous évangélisons nos voisins et ceux qui ne connaissent pas Christ, voilà l'arme que nous devons mettre. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est en train de dire cela et je vous explique pourquoi. Premièrement, ce texte n'est pas offensif, il est quoi? Défensif. Il nous dit de tenir ferme. Pas de partir en voyage et prêcher. Alors, ça c'est un autre texte qui nous dit ça, d'accord? Mais pas ici. Deuxièmement, ce texte nous parle d'armes défensives et pas offensives, et je pense qu'ici, le but du texte, le contexte, n'est pas d'évangéliser les perdus, mais de résister contre le diable. Et donc, l'évangile de paix que nous portons à nos pieds est donc la réalité de notre paix avec Dieu en Jésus-Christ, c'est une certitude absolue que je suis en Christ, que ma vie est en paix avec Dieu, et là je tiens forme avec cette vérité. C'est comme Gédéon. Vous vous rappelez l'histoire de Gédéon dans Juges 6 et 7? Il y avait des milliers de gens pour l'armée qui sont venus et Dieu a dit non, il y a trop de monde. Réduis l'armée. Jusqu'à combien? 300. Gédéon, il s'est dit, mais c'est la folie, là, on va perdre. Dieu a dit, non. Prends 300 hommes et moi, je vais vous donner la victoire. Je pense que ici, dans cette armure, nous devons être prêts pour la bataille. Nous tenons ferme et Dieu se battra pour nous. Amen. 4. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les sandales romaines avaient des petits crampons en dessous. Et ces crampons étaient justement là pour pouvoir tenir ferme. Donc vos sandales, les chaussures doivent avoir les crampons du zèle de l'évangile, la paix avec Dieu. 4. Prenez par-dessus le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alors intéressant, il dit par-dessus tout. Alors là, apparemment, c'est important. Par-dessus tout. Le bouclier. Alors, les Romains avaient plusieurs types de boucliers. Mais deux en particulier. L'un était un petit bouclier de combat, rond, maniable et léger, comme on le voit ici en fait. C'est pas vraiment celui-ci, parce qu'il n'est pas rond. Mais l'autre dont parle le texte, un peu plus grand que celui qu'on voit dans l'image. Et ce premier avait vraiment pour but de se protéger des frappes d'épée de l'ennemi. L'autre type de bouclier était ce qu'on appelait un tureos. Et c'était le bouclier, si vous avez vu ce film rigolo, Astérix, Mission Cléopâtre, hein, je sais pas si vous avez vu ce film, ben à un moment donné, les Romains, ils se cachent derrière des boucliers beaucoup plus grands, et ils créent carrément un carré. Et donc, ils sont imperméables à toute attaque. Et ben, c'est ce bouclier-là qui est décrit ici. C'était un bouclier plus grand, rectangulaire, parfois arrondi, fait de bois, mais recouvert ou bien de métal ou bien de cuir trempé d'eau. Et alors, ces boucliers étaient faits pour protéger le corps entier, c'est ça la clé. Et donc, on s'accroupissait derrière et le corps était protégé. Et donc, les soldats portaient ces boucliers en bataille. Ils étaient toujours ceux qui étaient en première ligne. Ils se mettaient côte à côte et on nous dit que parfois, ils pouvaient avoir un kilomètre de largeur. Et ils avançaient. Derrière eux se positionnaient les archers qui tiraient leurs flèches et ensuite, tac! Ils se cachaient derrière les boucliers pour les flèches de retour. Alors, ce qui est intéressant avec ces boucliers aussi, c'est qu'ils étaient, nous dit-on, à peu près la largeur d'une main. L'épaisseur d'une main. Et c'était des couches de cuir trempées dans de l'eau. Et nous, ce que nous apprenons ici, c'est que il y avait, bien sûr, les traits enflammés du malin. Il y avait des flèches qu'ils trempaient dans du bitume. Ils allumaient ça et ils tiraient la flèche enflammée, elle arrivait. Alors lorsqu'elle tombait sur quelque chose de dur, le bitume, s'éparpillait et brûlait tout sur son passage. Ou bien si cette flèche heurtait un de ses boucliers, la flèche rentrait dans le cuir mouillé et étouffait le feu. Et voilà le bouclier que nous devons avoir. Le bouclier de la foi. Et le mot veut dire exactement ce qu'il veut dire, la foi. Notre certitude dans la vérité. Une certitude absolue. Alors absolue, on est d'accord, c'est progressif, mais nous sommes sauvés par la foi. Et Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, et le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez, jeudi soir, on a eu notre principe fondamental de la foi, on a parlé des traits de caractère de Dieu, les attributs de Dieu. Et moi, ça m'a fait tellement de bien cette semaine de me rappeler de la souveraineté, de la toute-puissance de Dieu dans tous les événements de la vie. et qu'on peut avoir une totale confiance que Dieu contrôle les événements de ma vie. Humainement, je fais tout, bien sûr, pour que ma vie aille comme nous pensons elle devrait aller vis-à-vis du Seigneur, mais le Seigneur a le dernier mot sur notre vie, n'est-ce pas? Et d'avoir une confiance totale que même quand l'épreuve frappe, Dieu contrôle toute chose. Et je pense que ce bouclier de la foi, c'est ça. C'est de connaître Dieu d'une telle manière, d'une telle intimité, de connaître ses attributs, d'avoir connu comment Dieu a agi dans l'histoire et comment il va agir dans l'avenir et comment il agit aujourd'hui, que on passe notre vie comme tout le monde, sauf que nous avons une confiance, une foi absolue que Dieu et son Fils Jésus-Christ contrôlent les événements. Le verset qui m'a le plus fait du bien cette semaine, on a regardé Job. Et Job, vous savez, il a tout perdu, cet homme. Il a perdu sa famille, ses enfants. Sa femme n'était pas très contente avec lui. Il a perdu sa santé, tous ses biens. Tout. Et quand il n'avait plus rien, on pourrait imaginer que cet homme est devenu amer. Job 1, 21 dit, « Je suis sorti nu. » du sein de ma mère, et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Écoutez, l'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point, et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et ce qui est intéressant, si vous lisez le chapitre 1 de Job, c'est que les attaques étaient des attaques sataniques. Et pourtant, sa foi était ferme et il a adoré Dieu. Waouh ! Écoutez, mes amis, voilà l'article du bouclier que Dieu veut que nous portions. Est-ce que tu es confiant dans ta foi ? Cinq. Regardez. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Pourquoi par-dessus tout, j'ai rien dit là-dessus? C'est parce que c'est intéressant que le bouclier de la foi protège l'homme et tous les autres articles de l'armure. Quand tu es caché derrière l'armure, tout est protégé. Donc, le bouclier est hyper important. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Alors, les casques romains étaient généralement faits en bronze, posés sur une sorte de bol de fer en forme d'une tête et calfeutrés de tissu à l'intérieur. Ils avaient aussi des lanières de cuir sur le côté pour protéger la figure. Il y avait plusieurs modèles au fur et à mesure des années. Claudius a fait faire des casques qui protégeaient en plus le cou et l'arrière de la tête, et même certains avaient des protections faciales. Le salut, c'est quoi? Le salut. Écoutez. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Je te pose vraiment la question. Je te pose une autre question. Si tu mourais aujourd'hui, franchement, est-ce que tu es certain, sans aucun doute, que tu passerais l'éternité dans la présence de Dieu? Y a-t-il un doute? Si tu as un doute, il est possible que tu ne sois pas sauvé. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean 5 et le verset 13, « Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Si tu ne sais pas, je te pose cette question. Penses-tu que tu es pécheur? Est-ce que ta vie n'est pas en règle avec un Dieu saint? Si tu réponds honnêtement, non, je ne pense pas que ma vie est en règle avec un Dieu saint. Je suis un pécheur. J'ai un problème entre moi et Dieu. Eh bien, Dieu te répond, je t'offre mon Fils Jésus-Christ. Le salaire de ton péché, c'est la mort. Tu devrais mourir toi-même. Mais Christ a pris sur lui ton péché. Et tout ce qu'il faut lui dire, c'est je veux cela. Je veux te donner mes péchés. Donne-moi ta justice en retour. Il ne faut rien faire, il faut croire, il faut dire. Vous savez, moi, quand je l'ai fait à 19 ans, j'étais en Inde, et j'avais certains doutes, mais j'ai dit, Jésus-Christ, écoute, si vraiment tu peux me sauver, si tu peux me pardonner mes péchés, Si tu peux rentrer dans mon cœur et le transformer, écoute, s'il te plaît, fais-le maintenant. » Et vous savez ce qu'il a fait? Il est rentré dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Il m'a pardonné. Il m'a accordé la vie éternelle. Et ça, c'est le casque du salut. Si tu n'es pas sauvé, tu ne portes pas le casque. Un coup à la tête, c'est fini. C'est fini. Un coup à la tête, et c'est fini. Je te supplie, mets le casque du salut aujourd'hui. Viens à Christ. Si tu ne connais pas Christ, on serait tellement heureux de parler avec toi et de t'expliquer comment tu peux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Donc, reste. On a un repas tout à l'heure, dans quelques minutes, et tu es vraiment la bienvenue. Et le sixième article qu'on doit prendre, regardez ce qu'il dit. Le casque du salut, dernièrement, et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors ça, j'aime bien cet article. Une épée, elle est là, la parole de Dieu. Lisez Matthieu 4 et voyez comment Jésus l'a utilisée. Nous devons savoir manier la parole de Dieu. J'aime beaucoup 2 Timothée 2,15 qui dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » La parole de Dieu est vraie, elle est inhérente, sans faute, efficace, elle nous sanctifie. Écoutez la parole de Dieu, mes amis, c'est notre épée. Alors vous dites « Mais John, c'est une arme offensive. » Oui et non. Oui et non. Certes, la parole de Dieu est une épée offensive, mais aussi, avec quoi est-ce qu'on arrête les attaques d'une autre épée? Avec son épée. Donc ici, c'est encore une arme défensive. On se défend avec la parole de Dieu contre les attaques de Satan. Et c'est pour ça qu'il faut bien manier la parole de Dieu pour pouvoir résister aux attaques. Clac, clac, clac. Ouais, on devrait être des pros de l'épée de la parole, mes amis, pour pouvoir résister à ces attaques. Et c'est pour ça que dans notre église, nous avons plusieurs choses, des groupes de maison, les principes fondamentaux de la foi. On a commencé un groupe de jeunes hier soir. Écoutez, c'était incroyable. Je crois qu'on était 16 jeunes. On était 16 jeunes. Merci. Mais c'était vraiment super, quoi. Et on essayait de mettre en place l'école du dimanche, toutes sortes de choses pour vous aider à mieux manier l'épée, pour pouvoir mieux vous défendre. C'est beau, non? Ah, le Seigneur, il est bon. Alors, j'aimerais prendre encore 2 minutes et vraiment poser une question rapide. Alors, elle est un peu plus élaborée que probablement le temps qu'on a pour l'élaborer, mais j'aimerais quand même vous donner une semblance de réponse. Premièrement, est-ce que nous devons chasser les démons? Et deuxièmement, un chrétien peut-il être possédé par Satan ou des démons? Je crois que c'est très important d'en parler rapidement. Alors, la possession démoniaque, c'est quoi? La possession démoniaque, c'est réel, c'est une condition où un ou plusieurs démons habitent dans un corps d'un individu et qui prend ainsi contrôle total de sa victime. Et regardez le Nouveau Testament, il y a plein d'exemples. Alors, les caractéristiques, le démon possède l'individu, souvent ils aiment la mort, ils vivent dans les sépulcres, ils ont des esprits impurs, ils ont une force surnaturelle, ils crient, ils ont des cris de rage, il y a des tendances d'auto-meurtrissure, ils reconnaissent qui est Jésus-Christ. Ils savent que Christ va les tourmenter, ils sont chassables, ils parlent, ils altèrent la voix du possédé, ils peuvent être plusieurs pour posséder un homme, ils peuvent se transférer d'une personne à une autre, ou même d'une personne à des animaux. Et tout ça, je le sors de Marc chapitre 5 et de Matthieu chapitre 8, et bien sûr, ils sont soumis à Christ. Alors, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon ou par Satan? Alors, je répondrai comme ceci. Je crois qu'il n'y a pas un exemple clair dans la Bible où un chrétien, celui qui connaît Jésus-Christ, est possédé par un démon. Mais il y a beaucoup d'exemples où des non-chrétiens sont possédés par des démons. Alors il y a beaucoup d'exemples de chrétiens qui sont attaqués par des démons. Ça, on est d'accord. Job, Pierre et d'autres. Mais attaquer et être possédé, c'est 2 choses différentes. Alors, pourquoi est-il douteux qu'un chrétien puisse être possédé par Satan ou un démon? Premièrement, le chrétien est habité, il est justifié et ressuscité avec Christ. Hein, vous rappelez, par exemple, dans Colossiens 3, où il est dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Et Galates 2:20, encore plus fort presque, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Waouh ! Alors, je pense que la question est, si Christ vit en moi, y a-t-il la place pour un démon de vivre en moi et de me posséder? Moi, j'ai un problème avec cette thèse, personnellement. Deuxièmement, le chrétien est possédé par le Saint-Esprit. Encore un, du moins, il est habité par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 3:16 nous dit tout simplement, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» De nouveau, alors il y a Christ et l'Esprit en moi. C'est dur d'imaginer et de comprendre qu'il y aurait la place pour un démon qui te possède. Et troisièmement, quelles sont les manières prescrites pour combattre Satan et les démons en ce qui concerne un chrétien? Eh bien, on l'a vu ce matin. Ce n'est pas de chasser le démon, c'est de prendre son armure et de se protéger contre lui. Et donc, on peut se protéger contre les attaques du diable. Et 1 Pierre 5, 6-9 nous dit en plus quoi ? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève à un temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre et veillés. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Et ensuite, il dit quoi ? Résistez-lui avec quoi ? Une foi ferme. Il ne nous dit pas de chasser un démon, il nous dit « résiste-le avec une foi ferme ». Et Jacques 4:7 nous dit la même chose, de lui résister. Donc moi je ne pense pas qu'un chrétien peut être possédé par un démon, je pense qu'il peut être attaqué de manière très forte. Cependant, je pense qu'un non-chrétien peut être possédé par un démon, et là il y a plein d'exemples. Alors, je termine avec ça. Doit-on donc chasser les démons des non-chrétiens ? Waouh ! D'accord. Eh bien, je pense que la réponse théologique est oui. Je pense qu'il y a des instances où on pourrait être appelé à chasser des démons de non-chrétiens. Il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Je ne pense pas que c'est un don spirituel, mais c'est une activité chrétienne. Je pense. C'est comme ça que je le comprends. Mais soyons très prudents. Parce que dans Marc chapitre 9, même les disciples n'ont pas réussi. Marc 9, 28, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout... » Non, c'est pas ça. Marc 9, 9, 28, « Quand Jésus fut entré dans la maison, les disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit de cet homme ?» Incapable, même les disciples. Jésus dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Waouh. Alors, il y a des manières différentes de chasser certains démons, c'est un peu complexe. Et deuxièmement, une histoire un peu drôle, dans Actes 19, il y a un moment donné, il y a les fils de Sceva, alors je ne pense pas qu'ils étaient, bien sûr, c'était des juifs, mais ils se sont dit, ouais, super, on va aller chasser des démons. Alors ils ont été chasser des démons. Verset 13, quelques exorcistes juifs ambulaient, essayaient d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela, donc ils essayaient de chasser des démons, au nom de Jésus que Paul prêchait. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs, et l'esprit malin leur répond. Donc maintenant le démon leur parle. Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, vous êtes qui vous ? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que oui, il peut arriver que nous soyons appelés à ce genre d'exercice, mais faisons très attention. Entourons-nous de gens qui sont très matures dans la foi. Personnellement, en 22 ans de missionnaire, je n'ai jamais dû chasser un démon. J'ai rencontré pas mal de personnes où j'ai pensé, je me demandais si vraiment il n'y avait pas des problèmes démoniaques dans leur vie. À plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de prier avec le peu de foi que Dieu m'a donné, mais vraiment que ces personnes soient libérées d'attaques. Et par la grâce de Dieu, ces personnes, apparemment, il y a eu vraiment des choses qui se sont passées de positives dans leur vie. Mais je ne suis pas un expert dans le domaine. Alors voilà, je vous donne juste en quelques secondes mes pensées sur ce point-là. Mais l'important, mes amis, c'est quoi? L'armure. L'armure. Portons notre armure. Et si nous portons notre armure, nous pourrons résister aux attaques de Satan. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci pour la parole. Oh Seigneur, nous l'aimons. Nous t'aimons. Et merci parce que tu nous as donné tout ce que nous devons avoir et porter pour être protégés de Satan et ses attaques et ses ruses. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.